Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
À New York, la vente aux enchères de la collection d'art de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft décédé en 2018, a dépassé la barre historique du milliard de dollars. Des œuvres de Van Gogh, Cézanne ou Gauguin ont été adjugées par la maison Christie's à des prix records.
Plus de 117 millions d'euros, c'est le prix payé par un collectionneur d'art pour un tableau de Vincent Van Gogh, un record pour l'artiste. C'était il y a un peu moins de 2 ans, lors d'une vente aux enchères qui restera dans l'histoire. Il s'agit du verger avec cyprès, peint en 1888 à Arles. Des couleurs pâles et froides qui nous transportent au dégel et à l'apparition des premiers bourgeons, ai-je pu lire sur le site Muséum TV. Le peintre hollandais continue de fasciner presque 134 ans après sa mort, et pas seulement dans les salles de vente, en Chine aussi. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur Apple Podcasts, Castbox, Spotify et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming.
An entire little village entirely dedicated to mostly painting but arts in general.
C'est un village d'irréductibles peintres que l'on peut voir dans cette vidéo de Globic sur YouTube, un musée à ciel ouvert dans des petites rues. Sur les murs, des tableaux des plus grands artistes de l'histoire, Gauguin, Monet, Picasso, Basquiat et surtout Van Gogh, dont les tournesols fleurissent sur tous les murs des échoppes de ce village. Mais tous ces tableaux sont des copies. Nous sommes en Chine, à Dafen, où s'est rendu Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Shanghai. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierrick.
Vous étiez il y a quelques semaines à Dafen pour réaliser un reportage pour les Échos Weekend. C'est dans la banlieue de Shenzhen, l'une des zones économiques spéciales du pays et l'une des zones les plus prospères ces dernières années. Mais cette banlieue, Dafen, est connue sous un autre nom. On l'appelle le village de la peinture à l'huile. Pour quelle raison ?
Parce que c'est là où se sont installés des peintres à la fin des années 80 et qui se sont lancés dans la copie en masse de peinture à l'huile de maîtres célèbres européens, notamment Vincent Van Gogh, mais aussi Picasso, Monet. Et en fait, Dafen a été découvert par un galeriste de Hong Kong qui s'appelle Huang Jiang. Donc Hong Kong, c'est de l'autre côté du delta de la rivière des Perles par rapport à Shenzhen. Et en fait, ce galeriste, c'était aussi un homme d'affaires qui était spécialisé dans la reproduction de tableaux. Et donc, il faisait déjà travailler des peintres comme ça à Hong Kong pour reproduire des toiles de maître. Et un jour, cet homme d'affaires, il a été contacté par la chaîne de supermarchés Walmart pour devenir vraiment un fournisseur pour les supermarchés américains de peinture à l'huile. Et là, ça changeait totalement d'échelle pour son business. Les peintres qui étaient à Hong Kong ne suffisaient pas. Il fallait passer à une autre échelle, trouver à la fois une main-d'œuvre plus nombreuse et aussi moins chère qu'à Hong Kong. Et c'est comme ça qu'il est allé voir de l'autre côté du delta, donc en Chine continentale, et qu'il a traversé le delta qui faisait face à l'ancienne colonie britannique, et il s'est rendu vers Shenzhen. Alors à Shenzhen, à l'époque, c'était pas du tout effectivement la mégapole tentaculaire d'aujourd'hui. Il faut se souvenir, il y a 40 ans, Shenzhen, c'était encore un village de pêcheurs avant que Deng Xiaoping en fasse un laboratoire de sa fameuse politique de réforme et d'ouverture. Et donc lui, à la fin des années 80, il repère en fait Dafen, qui était un paisible hameau encore à quelques kilomètres de Shenzhen. Et c'est comme ça qu'il décide, il voit que c'est tranquille, etc. Et qu'il transforme finalement trois maisons de paysans en un atelier de 1000 mètres carrés. Et c'est comme ça que tout a commencé.
À quoi ressemble ce village aujourd'hui ?
Alors, le petit village isolé qu'on imagine à la fin des années 80, il n'existe plus du tout maintenant. C'est même plus dans la banlieue de Shenzhen, en fait. C'est un village qui est totalement englouti dans Shenzhen, qui est vraiment la mégapole ultra moderne. Ça compte 14 millions d'habitants. C'est le siège de Huawei, de BYD, du fabricant de drones DJI. Et donc maintenant, c'est un endroit qui est un petit quartier. C'est vraiment minuscule, hein. Ça fait moins d'un kilomètre carré. Ça ressemble plus du tout à un village. Ce sont des petits immeubles comme ça qui sont serrés entre des ruelles. Et donc, on y trouve des galeries, des ateliers en rez-de-chaussée ou en étage. C'est aussi là, bien évidemment, que les artistes vivent. On dit qu'il y a environ 8000 artistes qui sont en ce moment présents à Dafen. Et donc, quand on y va, on les voit travailler. Le plus souvent, d'ailleurs, en regardant un tableau sur leur téléphone mobile ou sur leur tablette. Et on les voit le reproduire. Il y a maintenant à Dafen un grand musée d'art qui a été créé en bordure du quartier. Parce qu'il y a quelques années, les autorités locales ont essayé de capitaliser finalement sur cette histoire artistique pour essayer de faire de ce quartier de Shenzhen un véritable centre d'art.
Vous avez rencontré l'un de ces 8000 peintres. Il a connu les débuts de Dafen il y a 27 ans.
Oui, alors c'est assez extraordinaire comme histoire. Donc, il s'appelle Zhao Xiaoyong et il est toujours à Dafen d'ailleurs. Et en fait, son parcours, il est assez intéressant parce que en soi, il est assez très représentatif finalement d'une certaine époque de la Chine et du parcours des travailleurs migrants qui venaient des campagnes pour aller travailler dans les villes. Donc lui, c'est quelqu'un qui est originaire d'un village du centre de la Chine. Et donc, en fait, il a 19 ans au début des années 90 quand il débarque à Shenzhen, comme des milliers de travailleurs ruraux, comme ça, qui vont dans les villes pour essayer de trouver du boulot dans les usines. Donc, c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, il prend un travail dans une usine de Shenzhen. Et donc, au bout de quelques années, il entend parler des peintres de Dafen. Et en fait, il décide de tenter sa chance parce que c'est quelqu'un qui a été sensibilisé à la peinture par son père quand il était petit, qui visiblement aime bien dessiner. Mais bien évidemment, il n'a fait aucune école d'art. Il était à la campagne ou à Shenzhen. Il fallait gagner sa vie. Et après, en fait, dans l'usine, en fait, c'était une usine de fabrication d'artisanat. Et donc, il touchait quand même un petit peu à la peinture. Et donc, finalement, il se rend à Dafen. Il est pris sous l'aile d'un ami. Et puis, on lui dit, il a jamais entendu parler de Vincent Van Gogh. Mais on lui suggère de se faire la main en recopiant un des fameux tableaux du peintre néerlandais. Il m'a précisé que c'était le tableau terrasse du café le soir. Et en fait, il se lance comme ça, juste en recopiant le tableau à partir d'une carte postale. Il se fait la main. Bon, bien évidemment, les premières tentatives sont invendables, etc. Mais le métier rentre. Et au final, tout au long de sa carrière, il va finir par en peindre des dizaines de milliers.
Et ça, c'est de la productivité. Alors, à l'époque, il n'est pas le seul à venir. Le village est en pleine effervescence.
Oui, alors, Zhao Xiaoyong, il fait partie des précurseurs. Il m'expliquait que quand lui, il était arrivé, il n'y avait quand même pas énormément de peintres. Mais très vite, des centaines et des milliers de travailleurs migrants vont venir prendre les pinceaux à Dafen. Donc là, on est dans les années 90-2000. Et en fait, c'est une époque où les commandes affluent par milliers pour des reproductions de Van Gogh ou d'autres peintres célèbres, mais quand même beaucoup de Van Gogh. Il faut savoir qu'au début des années 2000, en fait, jusqu'à la crise financière de 2008, on estime que 3 peintures à l'huile sur 5 qui sont vendues dans le monde proviennent de ce village de Dafen. Et en fait, c'est des peintures qu'on retrouve dans les supermarchés ou qu'on pouvait voir accrochés au mur des hôtels, des restaurants, comme ça, aux quatre coins de l'Europe et des États-Unis. Et alors, la plus grosse commande du galeriste qui a créé Dafen, donc Juan Jiang, elle émanait visiblement d'un client français. Alors, je lui ai demandé de rechercher le nom, mais il n'a pas retrouvé dans ses archives, qui avait commandé 360 000 tableaux avec une demande de faire en sorte que ça soit achevé dans un délai de 2 mois. Donc c'est colossal et il raconte qu'en fait il y avait avec lui une équipe de 12 peintres qui travaillait, et lui, il était très sceptique, et les 12 ont dit, mais si, il faut prendre cette commande. Et en fait, c'est vrai, ils se sont tous mis à appeler leurs copains, à chercher des membres de leur famille, ou faire le tour des usines, comme ça, aux alentours, pour débaucher des jeunes hommes prêts à prendre le pinceau. Et au final, il raconte que ces 360 000 tableaux ont été réalisés en un mois et demi.
Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. Qui vient dans une sorte d'irrésistible appel à la couleur, n'est-ce pas? Une sorte d'osmose entre le tube, les poils, la toile et l'alchimie du corps.
Chou Calescu, génie inventé par les inconnus, il peint plus vite que son ombre. Justement, Fred, comment est-ce qu'on peut peindre 360 000 tableaux en un mois et demi?
Ouais, bah ça paraît vraiment surréaliste. Alors en fait, bon, les peintres de Daphne donc sont autodidactes, hein, et pour ça, ben en fait, a été appliqué vraiment les méthodes de production à la chaîne qu'il y avait dans, enfin qu'il y a toujours dans les usines de Shenzhen aux alentours. En fait, le tableau n'était pas peint par une seule personne, mais par une équipe d'apprentis qui était supervisée par un maître. Et donc, en fait, il y avait une répartition des tâches. C'est-à-dire qu'il y en a un, il m'explique, qui faisait le ciel, l'autre les montagnes, puis l'eau, les arbres, et ainsi de suite. Donc, il y avait une division du travail comme sur une chaîne de montage. Voilà, et c'est à l'époque, il faut les imaginer, dans un tout petit atelier. Shenzhen, il peut faire une chaleur torride l'été. Ils travaillaient, ils y vivaient, ils dormaient dans cet atelier, ils enchaînaient comme ça les tableaux. Et Zhao Xiaoyong, donc, dont je vous ai commencé à raconter la vie, il faisait partie de ces travailleurs migrants comme ça, qui reproduisaient les chefs-d'œuvre pour une poignée de yuan. Et donc lui, il a commencé comme apprenti, et après plusieurs années comme apprenti, il a ouvert son atelier et il a pris à son tour des apprentis. Et lui, avec son équipe, il a peint à la chaîne des dizaines de milliers de copies de Van Gogh. Et ce qui est incroyable, c'est toujours sans avoir jamais vu un tableau original.
Eh ben un jour, peut-être qu'il pourra se payer un voyage à Amsterdam avec l'argent gagné. Vous l'avez rencontré, c'est un artiste, il a tout appris visiblement sur le tas, il est doué.
Alors justement, ce voyage à Amsterdam, il l'a effectué. En 2014, il a quitté la Chine pour la première fois, il est allé voir le musée Van Gogh à Amsterdam, et il était même allé à Saint-Rémy-de-Provence et à Arles. Il faut savoir que, en fait, il y a un galeriste comme ça, européen, qui s'était rendu à Daphen et qu'il avait repéré et qu'il avait vu ce qu'il faisait. Et en fait, après, il y a eu un documentaire qui a été tourné sur ce peintre chinois, et c'est à cette occasion qu'ils l'ont suivi dans ses pérégrinations en Europe. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, pour répondre à ta question, ce qu'on voit, c'est que maintenant, c'est quelqu'un qui veut sortir de l'ombre de Van Gogh, mais finalement, il a gardé un style très proche du maître néerlandais. Donc, il peint ses propres sujets, mais c'est quand même difficile de ne pas y voir le style Van Gogh. Et finalement, c'est aussi ce que cherchent les acheteurs. Et c'est d'ailleurs quand il est revenu de son voyage en Europe qu'il a eu un peu une sorte de déclic en se disant qu'il fallait plus pousser vers l'originalité. Et à ce moment-là, il m'a montré sur son téléphone, il avait peint une série de tableaux assez personnels qu'il appelle « Dialogue avec Van Gogh ». En fait, il se mettait en scène, lui et Van Gogh, finalement dans des paysages très célèbres de Vincent Van Gogh.
Alors, il tient une petite galerie à côté de son atelier où il expose ses peintures à l'huile, des copies de tableaux de maître. À qui est-ce qu'il vend ses œuvres?
Oui, alors c'est un petit espace, à la fois atelier, à la fois galerie. On y trouve ses peintures, mais aussi celles de sa femme et de sa fille qui travaillent également là. Il vend essentiellement maintenant à des Chinois. Quand je suis passé, il y avait un couple qui venait de Chengdu en visite à Shenzhen et qui était curieux de voir Daphen et qui venait notamment voir cet artiste parce que ils en avaient entendu parler. Et bon, c'est vrai, ce que m'ont dit les peintres que j'ai rencontrés, c'est que bon, les acheteurs n'y connaissent pas grand chose à l'art et continuent à vouloir des copies d'œuvres célèbres. D'ailleurs, la plupart du temps, l'acheteur ne se déplace même pas. Il peut être en Chine, partout en Chine, et il envoie par WeChat, voilà, une tableau, voire même une photo de famille qu'il souhaite voir représentée. Et c'est comme ça qui passe commande.
Alors Frédéric, en vous baladant dans les rues de Daphne, vous avez vu de nombreuses copies de Van Gogh. Pourquoi Van Gogh ?
Oui, alors on en trouve encore, alors bien évidemment beaucoup, beaucoup moins que dans les années dont j'ai parlé, 90-2000, mais on en voit encore, on en voit des paysages, des scènes de vie s'apparentant au style Van Gogh. On voit aussi des faux Picasso, par exemple, alors on trouve ça de toutes les tailles, hein. Ça peut aller du petit tableau au plus gros tableau. Bon, il y en a effectivement beaucoup moins qu'avant, parce qu'on l'a dit, ils essayent de pousser vers des choses un peu plus originales. Mais c'est vrai que quand on se balade quand même dans les ruelles de Daphne, très franchement, on ne peut pas dire que la créativité saute aux yeux, quand bien même les autorités de Daphne veulent faire de ce village un centre d'art et quand bien même certains artistes aimeraient vivre de leur propre création. Et c'est vrai que quand on se balade, ben on voit, on peut dégoter des petits tableaux, que ça soit de paysages chinois, des petits bouquets de fleurs très naïfs, voire des petits chats, des petites panthères. Il y a des portraits de Ronaldo comme ça qu'on peut voir peints pour 25 yuan, qu'on peut acheter pour l'équivalent de 3 euros. Et j'avais discuté avec un des artistes comme ça, là, dans son atelier Capignon-sur-Rue. Il peignait un paysage et il m'expliquait que c'était un client chinois qu'il avait jamais vu d'ailleurs sur WeChat, qui lui avait demandé et là qu'il allait le faire. Et donc il lui avait envoyé une copie via son smartphone et il était en train de le faire. Ça allait lui prendre la journée à peu près et il allait en récolter 400 yuan. Et ce qui est marrant aussi, c'est que Daphne a beaucoup évolué. On l'a dit, où ils recevaient des commandes par centaines, par dizaines de milliers, est terminée. Les grands ateliers avec plein d'apprentis n'existent plus. Mais ils continuent quand même à ne pas peindre entièrement les répliques de tableaux qu'ils font. En général, maintenant, le fond de la toile, c'est généralement une impression sur laquelle, en fait, le peintre rajoute des touches de peinture.
Frédéric, ça veut dire que l'âge d'or du marché de la copie est terminé ?
Bon, clairement, Daphne a perdu de son importance par rapport effectivement aux années 90 et 2000 et a quand même du mal à se trouver un avenir. Bon, les ateliers qui sont composés d'apprentis à la chaîne ont disparu. Il y a eu un premier coup dur qui a été lié avec la crise financière de 2008, où en fait les commandes qui venaient de l'étranger, des États-Unis notamment et d'Europe, se sont totalement effondrées. Et ça a été un coup dur, parce qu'à l'époque, il y a eu jusqu'à 20 000 peintres qui étaient à Daphne. Plus récemment, les années de fermeture de la Chine liées à la lutte contre le Covid ont été également un coup dur pour Daphne, puisqu'il n'y avait plus personne qui venait voir ses peintres. Et donc, de nombreux peintres ont plié bagage. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand même, après la crise financière de 2008, ce qui avait temporairement sauvé, si je puis dire, les peintres de Daphne, c'est qu'il y a eu une demande intérieure chinoise qui a émergé. Et donc, ils se sont tournés vers cette clientèle. À l'époque, la classe moyenne chinoise émergente et accrocher une reproduction d'une peinture célèbre, ça faisait très chic pour des nouveaux riches chinois, pour cette bourgeoisie émergente qui commençait à acheter des appartements, etc. Et donc, les peintres de Daphne se sont adaptés pour répondre à cette demande des nouveaux consommateurs, notamment en délaissant un peu les tableaux de maîtres européens, en se tournant plus vers une esthétique chinoise, par exemple, aussi, parce que ça répondait à une demande aussi d'une peinture plus traditionnelle, des fameux paysages de montagne et d'eau, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les difficultés économiques du pays et la crise immobilière qui est en train de traverser la Chine, ça pèse quand même sur le budget des classes moyennes. Et je discutais avec un galeriste sur place qui me disait quand même que les Chinois avaient quand même de moins en moins d'argent à mettre dans l'achat d'une peinture et que les prix étaient très bas. Et que ça, clairement, ça poussait pas non plus les peintres à être assez originaux dans leur démarche et dans leur pratique artistique, parce que les prix étaient, les consommateurs étaient pas prêts à payer des sommes importantes pour les peintures de Daphne. Il faut savoir, voilà, Daphen essaye de se départir de cette réputation de village de copieurs, mais c'est extrêmement dur. C'est quand même une place, un village qui est complètement boudé et snobé par tous les collectionneurs d'art. Et finalement, ben, Zhao Xiaohong, donc, que j'ai vu dans son atelier, il y a effectivement des toiles originales, des toiles qui lui sont propres, mais il continue quand même de peindre et de vendre des copies de Van Gogh. Et on voit que c'est quand même très difficile pour lui de sortir de l'ombre du maître néerlandais, pour celui qu'on surnomme toujours le Van Gogh chinois.
Et un dernier mot, Fred, vous êtes reparti avec des tournesols ?
Non, j'ai rien acheté et... C'est peut-être aussi un signe de l'intérêt que j'ai trouvé dans la créativité de la place.
Ça te plaît la toile ?
Hein ?
Le bleu,
ça ?
Tu voudras ton portrait en bleu ?
Voilà, c'est dessous. Je lisais pas.
Bon allez, tire-toi.
Tire-toi.
Van Gogh par Maurice Piala, les derniers jours du peintre néerlandais. Avec Jacques Dutronc, Van Gogh, copié mais inégalé dans les rues de Daphen. Mais pourquoi cette fascination pour cet artiste ? C'est la question que j'ai posée à Éric Mercier, écrivain et docteur en histoire de l'art.
D'abord, comme tout le monde le sait, c'est un des plus grands peintres, un peintre totalement mythique, dont les tableaux se vendent des prix tout à fait exceptionnels. Mais là, il n'est pas le seul. Mais ce qu'il a en plus, à mon avis, si vous voulez, c'est qu'il y a des points d'interrogation, des mythes autour de Van Gogh qui se sont créés à différents niveaux.
Et c'est lié aussi à la personnalité torturée de Vincent Van Gogh, qui s'est longtemps cherché avant d'oser devenir peintre.
Oui, il a longuement hésité, si vous voulez. Il a d'abord voulu faire du prosélytisme calviniste, probablement pour faire plaisir à son père ou pour le copier. Il a également vendu quelque temps des tableaux, mais ça ne l'a pas plu. Il a été à Paris, il a été à Londres. Et puis ensuite, il a eu la vocation de la peinture qu'il a embrassée avec la même passion que sa volonté de prosélytisme religieux.
Vous venez de publier aux éditions de La Martinière « Le secret de Van Gogh », un polar palpitant sur la trace d'un tableau peint à quatre mains par Van Gogh et Gauguin, on n'en dira pas plus. On a parlé du village de Daphen en Chine avec Frédéric Schaeffer. Pourquoi ces tableaux plaisent-ils autant ?
Alors, chacun peut y trouver des raisons différentes, mais je crois quand même que c'est un coloriste absolument formidable et que ces tableaux, contrairement à d'autres peintres, ont une résonance immédiate, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'être historien de l'art pour être fasciné par la palette de Van Gogh.
Dans votre livre, on rencontre aussi un drôle de personnage, c'est un faussaire, John May, un personnage fictif, mais il y a eu des faussaires de génie dans la peinture ?
Alors, il y a eu, et il y en aura de moins en moins. Alors, il y en a eu, bien sûr, le plus célèbre, peut-être, c'est Van Magren, si vous voulez, qui a copié Vermeer, qui a été emprisonné aux Pays-Bas quand le pays a été libéré des nazis. Et il avait vendu à Göring un tableau et il était emprisonné de ce fait. Et pour qu'il ne soit pas inculpé, il a demandé, alors qu'il était en prison, qu'on lui donne un certain nombre de fournitures. Et en prison, il a fait un faux Vermeer. Et à ce moment-là, il est devenu un héros national pour s'être ainsi moqué de Göring. Mais malheureusement pour lui, il est mort 6 mois plus tard.
Pourquoi est-ce que vous dites qu'il y aura de moins en moins de faussaires ?
Alors, il y aura de moins en moins de faussaires, si vous voulez, notamment pour la peinture ancienne, parce que les techniques ont formidablement évolué. Et donc, aujourd'hui, copier un tableau du XVIIe ou du XVIIIe siècle, retrouver les pigments et échapper ensuite à tous les contrôles possibles, à mon avis, ça devient impossible. Par contre, je ne dirais pas la même chose des tableaux récents, où là, c'est quelqu'un qui a le coup de pinceau peut y arriver beaucoup plus facilement.
En novembre 2022, le tableau Vergier avec Cyprès a été adjugé pour 117 millions de dollars. Alors, c'est pas le tableau le plus cher de l'histoire, mais comment évoluent les prix des œuvres de Van Gogh ?
Concernant la cote de Van Gogh, si vous voulez, je connais le tableau que vous mentionnez et je dirais, si vous voulez, qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour Van Gogh parce que ce tableau, finalement, est loin d'être le meilleur. C'est un verger avec des cyprès, tout ça dans des connotations assez hivernales. mâles. Et donc, si demain on avait des iris qui sortaient ou des tournesols, je pense que Van Gogh se retrouverait parmi les peintres les plus chers. Alors que contrairement à ce que l'on peut penser, si on considère les 10 peintres dont les prix se vendent le plus cher en salle des ventes, Van Gogh n'en fait pas partie. Son tableau le plus cher, c'est un portrait du docteur Gachet, qui a été vendu, si on actualise le prix, à peu près 150 millions chez Christie's. Mais devant lui, vous avez bien sûr le tableau attribué à Léonard de Vinci dont on a tant parlé. Vous avez un Gauguin, vous avez un Cézanne, vous avez des Modigliani et des Picasso, bien sûr.
Si vous deviez en avoir un seul dans votre salon, on va dire une copie, parce que avoir l'original, ça serait compliqué. Et ce serait lequel ?
Oh, écoutez, c'est difficile. Il y a tellement de tableaux qui sont fabuleux. Mais j'aime beaucoup celui que je viens de citer, le portrait du docteur Gachet, où là, on voit que c'est un des derniers tableaux que Van Gogh a peint. Et peut-être que dans le visage de son docteur, il met aussi ses propres soucis, si vous voulez, sa propre décrépitude.
Merci Eric Mercier, auteur de « Le secret de Van Gogh » aux éditions La Martinière. Merci aussi à Frédéric Schaeffer. Son reportage à Daphen dans l'atelier des faux Van Gogh est à retrouver sur le site leséchos.fr. On vous le met en lien dans la description de cet épisode. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnès.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.